Si on vous parle d'un vêtement, à quoi est-ce que vous l'associez, vous ? Est-ce qu'il est au moins dissociable d'une époque, d'une éducation, d'un entourage ? Est-ce que le vêtement et la perception de ce vêtement surtout disent quelque chose de tout ce qui l'entoure ? Au hasard, le foulard. À quoi vous l'associez, vous, le foulard ? À Grace Kelly, dans un film de Hitchcock, comme moi, ou à un jeu dangereux, le jeu du foulard ? À la vitrine d'une vieille maison française, à la fête des pères, à une écharpe, ou à une poignée d'anti-gilets jaunes qui se font appeler foulard rouge ? À Jackie Kennedy, à un manifestant qui se protège de gaz lacrymogène, pardon, à Emilio Pucci, à un tour de magie, à Audrey Hepburn dans Charade, ou au voile, à la pudeur, ou aux Argentines qui défendent le droit à l'IVG avec leur foulard vert, à Elisabeth Taylor qui en faisait un genre de turban, au Scout de France, au printemps tout simplement, au dandy des années 60, à la Feria de Nîmes cette année on portera des foulards bleus, à François Sagan au volant d'un cabriolet, au BCBG qui ne l'appelle pas foulard mais carré, à une femme musulmane à qui l'on interdit les sorties scolaires si elle le garde sur elle, le foulard. Mais j'aime bien cette idée qu'un simple vêtement revêt beaucoup plus sur soi que ce que l'on croit, un simple vêtement. Tiens, au hasard, le foulard.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui sait ce que c'est qu'un foulard dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle époque. Elle est créatrice de costumes et présidente de l'Association française des costumiers du cinéma et de l'audiovisuel. On se souvient notamment de sa grande collaboration avec Jean-Pierre Jeunet qui lui valait un César pour un long dimanche de fiançailles. Vous avez vu ses costumes dans le formidable Jackie de Pablo Larraine ou dans la série Versailles. Et la voilà qui signe les costumes d'un film consacré au danseur russe Nouriev de ses débuts en URSS jusqu'à son échappée à l'aéroport du Bourget en 1961. Bonjour Madeleine Fontaine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Qu'est-ce qu'il vous évoque à vous, tiens, le foulard ?
Mais vous évoque tellement de choses à vous que c'est difficile d'avoir autre chose. J'ai beaucoup de toutes ces images-là. On pense évidemment à la Dolce Vita aussi. Mais c'est vrai que c'est un accessoire de costume et de vêtements pour les gens qui ne se costument pas, qui parlent beaucoup. Et qui donne la possibilité d'avoir un peu de fantaisie ou au contraire de marquer une rigueur. C'est vrai que c'est une appartenance, le foulard.
Une appartenance, ouais. C'est assez passionnant au regard de cette liste. Quelle utilisation est-ce que vous en faites, vous, par exemple, dans un film comme Nouriev ?
Là, il y a plusieurs foulards, comme vous avez pu le remarquer. Il y a les foulards traditionnels que portaient certaines des femmes en Russie quand il était enfant. Et puis, il y a le foulard derrière lequel s'abrite incognito Clarassin quand elle vient l'aider à s'échapper. Et oui, le foulard, c'est toujours quelque chose qui donne... Je dirais que peut-être que pour l'homme, c'est l'accessoire cravate qui va donner un peu de fantaisie ou marquer quelque chose. Là aussi, une appartenance, c'est un foulard, une cravate club ou une cravate fantaisie, ça dit quelque chose.
Et pour ce personnage de Clara qui est incarné par Adèle Exarchopoulos, en quoi le foulard tel que vous le lui faites porter fait-il immédiatement signe vers une époque ? Moi, il m'a évoqué ma grand-mie, Madeleine. Les années 60, sans doute.
Mais c'est ça. C'est ça, et en plus ce foulard-là, c'était un peu une passation, parce que c'est la réelle Clarassin qui me l'a confié.
Ah, c'est vrai ?
Oui, c'était pas mon choix, mais c'était mon choix de prendre celui qu'elle me proposait.
C'est son foulard à elle ?
C'est un foulard à elle, qui était un foulard Hermès, parce que dans son milieu, ça se portait, c'était des codes aussi. Et c'est elle qui l'a proposé pour l'actrice qui incarnait Clarassin.
D'ailleurs, c'est intéressant, sur le plan du vêtement, qu'est-ce qui la caractérise, cette époque du tout début des années 60 ? Quelle forme, quelle couleur, quelle matière est-ce que vous lui associez, vous, dans le vestiaire féminin, Madeleine Fontaine ?
On sort des douces couleurs des années 50, de tous ces pastels, ces corails, et on arrive vers des couleurs plus contrastées. Quelles couleurs ? Ben, vous les voyez souvent dans les films des années 60 aussi. On est dans des bruns, dans des verts anis, dans des bleus turquoise. Les couleurs changent effectivement à cette frontière entre les années 50 et les années 60. Et ça, ça me touche, ça me parle beaucoup.
Et en termes de matière ?
En termes de matière, on est dans des jerseys qui n'étaient pas vraiment là avant non plus. On est dans des soies aussi. Là, on parle du vêtement classe un peu, mais c'est vrai que le jersey prend beaucoup d'importance à ce moment-là.
Et dans le vestiaire masculin ?
Dans le vestiaire masculin...
Des cravates, vous disiez ?
Oui, il y avait des cravates beaucoup, mais les formes s'affinent. Le côté sport chic arrive aussi d'une manière un peu plus populaire, j'allais dire, que dans les années 50, où c'est réservé aux, aux gens de...
Ce qui est intéressant, c'est comment vous vous y prenez pour suggérer une époque tout en vous laissant une certaine marge de liberté quand même par rapport à la réalité.
C'est toujours une interprétation, ça passe toujours par le filtre de ce qu'on ressent et de ce qu'on connaît.
Vous voulez dire que c'est aussi le fantasme des années 60 qu'on écrit avec
aussi,
le costume.
Quelque part, enfin le fantasme, en tout cas le mien sans doute, c'est toujours fait de la nourriture qu'on a visuelle, témoignant de l'époque, et c'est la manière dont on en retire les éléments qui vont pouvoir permettre d'emmener les gens dans cette époque.
C'est quand même un métier fascinant. Sur le plan du costume, lorsqu'on voit ce film Nourieff, par exemple, on se rend compte du travail que ça a pu représenter pour vous et pour votre équipe. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants, trois époques, trois lieux. Les années 60 en France, les années 50 à Saint-Pétersbourg, les années 40 à Oufa, à 1500 km au sud-est de Moscou, sans compter les costumes de scène. Combien de costumes est-ce que vous avez dû concevoir pour ce film, à votre avis ?
C'est difficile de dire combien on en conçoit, parce qu'en plus, ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que la conception se fait sur les costumes des rôles, la réalisation de ces costumes se fait avec une équipe en atelier, donc c'est déjà du monde. Et ensuite, il y a tout le travail avec la figuration, tout ce qui va donner la texture de l'époque et qui donne la possibilité d'avoir un éventail plus grand pour en parler. Et ça s'est fait dans trois pays différents. Ça s'est fait en France avec les stocks que je connais et les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais ça s'est fait aussi en Russie, avec ce qu'on pouvait trouver, parce qu'on n'emmène pas facilement des quantités de costumes en Russie. Et donc c'était spécial, la quête déjà, et puis la rencontre avec les équipes russes.
Et en combien de temps est-ce que ça se fait ?
Ben ça s'est fait assez rapidement, ça, finalement. Parce que normalement, on a à peu près le même temps... Enfin, quand j'ai commencé à travailler, on avait à peu près le même temps de préparation qu'on a de temps de tournage.
C'est plus le cas.
Ça se réduit beaucoup. Oui.
Ça vous arrive, Madeleine Fontaine, de puiser dans des costumes qui existent déjà, d'utiliser des vêtements ?
Bien sûr. On commence par ça, d'ailleurs, je dirais. Parce que c'est ce qui va permettre de s'essayer, de voir les formes qui conviennent. On a beau avoir l'habitude, les physiques ne vivent pas tous de la même manière des lignes d'époque, donc on commence par ça. Essayer des pièces authentiques, autant qu'on puisse en trouver, évidemment, pour Versailles c'est plus difficile. Mais on commence par essayer des formes authentiques et ensuite on travaille là-dessus, on fabrique en fonction de ça. Mais j'aime beaucoup et j'ai besoin aussi, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, d'intégrer des pièces authentiques, parce que c'est ça aussi qui va faire vibrer
les fêtes vraisemblables. En fait.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'ils deviennent une fois le tournage achevé, ces costumes ?
Alors ces costumes, ceux de la figuration retournent là où ils ont été loués. Ceux qu'on a fabriqués pour ça sont parfois fabriqués en première location avec les loueurs, donc retournent aussi dans les stocks et les nourrissent. Et les autres, ils appartiennent à la production de toute façon, qui en fait ce qu'elle veut en faire.
Alors justement, ça vous arrive de les retrouver dans un autre film porté par un autre acteur ou une autre actrice que celui ou celle pour lequel il avait été créé ?
Oui, ça m'est arrivé, c'est curieux.
Bah, c'est bizarre.
C'est très curieux. En fait, ce que j'essaye de faire toujours, c'est de renourrir les stocks avec les costumes qui ne sont pas trop reconnaissables, mais qui ont été bien fabriqués et qui peuvent resservir à d'autres, parce que je suis ravie de trouver ceux-là aussi dans les stocks. Et ceux qui sont trop reconnaissables, j'essaye de faire en sorte que s'ils sont repris par des loueurs, ils soient transformés. Au moins en couleur.
Ça peut poser un problème presque de droit, non ?
Ben, de droit, non, parce qu'on n'en a aucun. Il y a des pays où les créateurs de costumes ont des droits. Je serais très 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 riche si c'était le cas. Je ne sais pas si vous avez vu sur comment ça s'appelle ? Pinterest. Moi, je dois avoir à peu près 600 photos de Versailles qui m'arrivent tous les 3 jours. Je suis ravie. Mais bon, non, il n'y a aucun droit là-dessus, en fait. Mais c'est plus une histoire de... Comment dire de... c'est pas, le mot fidélité me vient, mais c'est pas ça, c'est d'intégrité par rapport à un projet, par
et
rapport
un
à un réalisateur. Oui, bah, de toute façon, en même temps, quand on les remet en circuit, on se doute bien que ça peut être ça.
Mais du coup, pour éviter que ça se reproduise, qu'est-ce que vous faites ? Parfois, vous les brûlez, Madeleine ?
Non, je les brûlerai jamais. Je les teins, je fais en sorte qu'ils puissent servir, mais qu'ils soient différents. Sur Versailles, on a démonté tous les décors des costumes des rôles qui ont été repris par un loueur pour que ça soit une bonne base sur laquelle d'autres puissent rêver, mais qui ne reviennent pas à être les mêmes exactement.
Celle qui ne porte aucun costume dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est La Culture et son actualité dénudée, un petit peu olé olé. Croyez-moi, parfois on s'en passerait bien, surtout le mardi matin. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, 11 juin ?
Et là, je vais entrer dans ce qu'on appelle le salon vert, qui était autrefois la salle à manger de l'impératrice Eugénie.
À qui tour ?
C'est reparti pour un tour. C'est aujourd'hui que seront dévoilés par le ministre de la Culture et Stéphane Bern la shortlist des 103 monuments retenus pour la saison 2 du Loto du Patrimoine. Au moins un site sera retenu par département, alors que 3000 bâtiments en difficulté avaient été recensés au terme des candidatures en février. Ces 103 monuments viendront s'ajouter aux 18 prioritaires dévoilés en mars, dont le phare de l'île aux Marins à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse. Le super tirage du Loto, doté d'un jackpot de 13 millions d'euros, aura lieu le 14 juillet prochain à votre bon cœur. Levé de rideau sur les Tonys dimanche soir à New York, la cérémonie des Tony Awards qui récompense le meilleur de la saison à Broadway a vu le sacre de The Ferryman, pièce inspirée du conflit en Irlande du Nord, élue meilleure pièce. Côté comédie musicale, c'est le spectacle Hadestown, relecture très moderne et dansante du mythe d'Orphée et Eurydice qui a cassé la baraque en raflant pas moins de 8 trophées, dont celui de la meilleure comédie musicale. On y a vu aussi James Corden en hilarant maître de cérémonie et puis le comédien Billy Porter en robe utérus, Showtime.
Pas de regret. Adjugé 2 300 000.
Dans le Paris de Notre-Dame.
Notre-Dame de cœur, en solidarité avec la cathédrale de Paris incendiée, 28 artistes du monde entier exposent à la prestigieuse Galerie Gagosian à Paris dans le but d'aider au financement des travaux de reconstruction. On pourra y voir, et pourquoi s'y offrir, on peut toujours rêver, des œuvres de Balthus, Frank Gehry, Takashi Murakami, Cindy Sherman, Patti Smith. Certaines d'entre elles ont même été réalisées spécialement pour l'occasion. Le produit des ventes sera reversé à la Fondation Notre-Dame, venant s'ajouter aux 850 millions de promesses de dons déjà enregistrées.
Les gens y parlent, on entend une voix, hop, on vient, qu'est-ce que ça dit ?
Montreuil montre la voie. La commune de Seine-Saint-Denis accueille dès aujourd'hui la 9e édition du festival Vox, rendez-vous urbain de lecture à voix haute et de livres lus gratuits et ouvert à tous. L'événement, décliné dans plusieurs lieux de la ville, innovera cette année en accueillant aussi le premier salon du livre audio qui ne cesse de conquérir de nouveaux adeptes et qui a vu ses ventes augmenter de 38% en un an. Côté programme, on pourra assister à des siestes sonores, des lectures dans le noir et puis des lectures d'Ariane Ascaride et de Dominique Blanc notamment. En avant. Et puis Madeleine Fontaine, créatrice de costumes, invitée de Boomerang ce matin. Madeleine Fontaine, dont on verra bientôt le travail dans le nouveau film de Ralph Fiennes, Nourieff, le corbeau blanc. Et c'est un plaisir de vous recevoir ce matin, parce que le costume, c'est quand même un métier qu'on n'a jamais interrogé dans cette émission, qui n'est pas connu de tous et de toutes. C'est un prisme tout à fait fascinant, à mon avis, pour interroger le cinéma. Ces métiers d'artisanat, on en parlait un petit peu, pensez-vous qu'ils soient suffisamment valorisés, défendus, mis en avant aujourd'hui, y compris dans cette industrie et du cinéma?
Non, je ne crois pas. Tout ce qui est travail à la main n'est forcément pas vraiment valorisé, puisque ça prend du temps, donc ça coûte de l'argent. Et on n'est pas vraiment dans une époque qui prend le temps. On est dans une époque qui a besoin de produire vite et à moindre frais. Donc ça, c'est vrai que c'est un artisanat d'art. Je veux dire, c'est comme dans la mode, en fait.
Mais je le disais en début d'émission, vous êtes présidente de l'Association française des costumiers du cinéma et de l'audiovisuel. Une plus grande reconnaissance de ces métiers, ça passerait par quoi, tout simplement?
Peut-être pour une plus grande connaissance de ce que ça représente. Je pense qu'il y a eu une époque où les directeurs de production et les producteurs savaient avec qui ils travaillaient et ce qu'ils demandaient aux gens, ce que ça représentait, qu'ils ne prenaient pas pour des caprices les demandes qu'il pouvait y avoir pour pouvoir livrer un travail à la hauteur de l'ambition du projet.
Vous l'avez vraiment vu évoluer, ce métier?
Oui.
Et se dégrader?
Je pense que ça se dégrade, les conditions se dégradent parce qu'effectivement l'argent n'est pas disponible de la même manière. Alors où il est, qu'est-ce qu'on en fait, j'en sais rien, mais la réalité c'est que les préparations sont plus courtes et que les budgets sont serrés, et c'est qu'il faut faire beaucoup plus pour réussir à faire les choses correctement à l'intérieur du contexte.
Mais pour quelle raison est-ce que vous vous êtes tournée vers le costume de cinéma à l'origine?
Alors c'est curieux, parce qu'en fait, c'était le fruit de rencontre, c'est par chance, en fait. Je sais que j'avais une aspiration pour ça. Ma formation était artistique, mais elle avait pas de forme définie. Et en fait, c'est une suite de rencontres qui m'a amené à me dire que c'était un métier pour lequel j'avais quelques cordes à ma harpe et qu'il fallait travailler pour l'apprendre. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont appris.
Je crois que le premier film sur lequel vous avez travaillé, c'est L'État meurtrier de Jean Becker avec Isabelle Adjani. Ouais. Quel était votre rôle précisément sur ce tournage?
J'étais simplement censée aider la créatrice de costumes qui était Thérèse Ripaud à trouver les endroits où il y avait des friperies pour compléter ce qu'elle avait déjà. Pardon, j'ai un chat.
Je vous en prie.
Et puis coudre un peu des choses avec elle, enfin aider des choses. J'ai fait un costume dessus.
Vous vous en souvenez toujours de cette première expérience ?
Bien sûr, je m'en souviens.
Chaque fois que vous faites un film ?
Pas chaque fois que je fais un film, mais je suis reconnaissante à la vie de m'avoir fait apercevoir ce métier comme étant quelque chose qui pouvait me convenir.
Vous pouviez imaginer qu'un jour, vous seriez cette grande créatrice de costumes que vous êtes aujourd'hui, que vous graviriez tous les échelons de la profession ?
Non, et en plus, j'ai jamais eu une démarche carriériste. J'ai compris qu'il fallait que je l'apprenne. J'ai rencontré des gens comme Michel Richet qui m'ont beaucoup donné sur des bases de ce métier. Et après, j'habitais en Provence à l'époque, donc j'étais pas du tout dans la quête du projet qui allait m'amener à un autre projet et qui allait me faire connaître. Ça a été vraiment une suite de rencontres chanceuses.
Mais alors, quels ont été les premiers costumes dont un cinéaste vous a confié la création, vous seul ?
Jean-Pierre Jeunet.
C'était pour Amélie Poulain ?
Oui.
Ah, c'est quelque chose quand même.
C'est-à-dire que je faisais le même travail avant, sauf qu'on ne me confiait pas la création de costumes sur un film d'ampleur. J'ai toujours fait le même travail, sauf que Jean-Pierre m'a donné l'occasion de le mettre dans une vitrine que tout le monde a pu voir. Et du coup, on sait bien comment ça fonctionne. On vous demande de faire ce qu'on sait que vous savez faire.
Vous voulez dire qu'on vous a demandé d'habiller des nains de jardin ?
Non, les nains, c'était fait. Les nains, c'était fait. Mais je veux dire, oui, c'est ce qui a validé, en fait, mon travail, je pense.
Et ça a été une expérience créative particulière, on sait, avec l'immense créativité de Jean-Pierre Jeunet.
Ah bah oui, parce que Jean-Pierre, quand il a une idée, c'est un tiroir qui s'ouvre et il y a une image qui vient. Donc il faut l'habiller, l'image aussi.
Il vous laissait une liberté ?
Oui, je pense que ça a toujours été un gage de confiance, c'est-à-dire que, en fait, il attendait qu'on lui propose des choses qui soient évocatrices pour lui. C'était Amélie, on l'a fait aussi avec assez peu de temps et pas les moyens de la suite des films qu'on a pu faire ensemble.
Et dans les films que vous avez fait ensemble, il y a aussi un long dimanche de fiançailles qui vous a valu un César. Et c'est intéressant, Madeleine Fontaine, parce qu'on vous connaît aussi beaucoup pour les films d'époque. Je pense aussi à Jackie, qui a été un choc pour moi, le superbe film de Pablo Larraine, qui vous a valu un BAFTA. Je pense à Yves Saint-Laurent, de Jalil Lesper, à Séraphine, avec Yolande Moreau. Sans compter, vous le mentionniez, la série Versailles, créer les costumes d'un film dont l'action se déroulerait aujourd'hui. Est-ce que ça aurait un intérêt pour vous ?
C'est un grand intérêt de travailler en contemporain, mais c'est extrêmement ingrat.
C'est vrai ?
Ben oui, parce que ça demande déjà le terrain d'action pour trouver de quoi créer les personnages chez les magasins. Faut aimer ça quand même. Et
vous êtes en train de me dire que vous n'aimez pas faire les boutiques ?
Non, j'aime pas ça. Non. En même temps, j'aime bien chercher, donc on peut chercher là aussi, mais c'est un contexte qui est complètement différent. Et surtout, c'est la relation que les comédiens ont à leur apparence, oui, aux contemporains, oui, les références qu'ils ont et qui sont d'une beaucoup moins grande liberté que quand il s'agit de faire le pas vers une interprétation d'époque.
On ne sait pas très bien ce qu'on retiendra, en fin de compte, à votre avis, dans 50 ans, quand on réalisera des films qui se passent en 2019. Qu'est-ce qu'on retiendra de notre époque ? Qu'est-ce que les créateurs de costumes iront chercher ?
C'est une bonne question. Et je me dis que, en fait, c'est difficile aussi, même quand c'est de l'époque, parce que les années 90, ça devient de l'époque, hein, même 2000, ça devient de l'époque. Et là, franchement, j'ai pas le recul. Je sais que les gens qui travaillent en contemporain l'ont plus, parce qu'ils sont justement rodés à ça. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que le plus proche de nous que j'ai pu traiter, c'est 80. Et c'était avec le film de Noémie Lvovsky, Camille Redouble. Et là, la première chose qui m'a parlé, en fait, au dehors des formes, parce que les formes des années 80, je pense pas qu'elles aient marqué le temps par leur esthétique. Mais en revanche, c'est la couleur. Les sorties de collège, et c'était beaucoup le cadre du film de Noémie, les sorties de collège en 80, c'était un arc-en-ciel.
Quelle époque est-ce que vous préférez habiller, vous ? Entre nous, hein.
Oui, non, mais je ne sais pas s'il y en a une que je préfère. Je pense que chacune m'apporte quelque chose.
Eh bien, vous êtes bien amusée, Madeleine Fontaine.
Oui, je me suis bien amusée.
Ouais.
Ben, je crois que je m'amuse, en fait, à chaque fois que j'ai un sujet proposé, parce que ça me fait découvrir des choses que je ne connais pas ou que je connais d'une manière superficielle. Ça me permet de plonger dedans.
Ah, c'est le détail, en fait.
Oui.
Le plus intéressant.
Non, c'est pas le détail, c'est plus la manière dont les gens vivaient à l'intérieur du vêtement, dans des époques différentes, les codes sociaux, les codes couleurs, enfin, c'est tout ça m'intéresse en fait. Donc il n'y a pas une époque qui m'amuse plus qu'une autre. Si vous pensez au chantier de Versailles,
par exemple,
ben c'est parce que c'était un immense chantier et que faire l'expérience d'une époque avec 3 décennies sur un temps aussi long, ça permet effectivement de pénétrer le sujet autrement et de l'explorer. Mais oui, non, enfin, ça m'amuse de toute façon, heureusement.
Pour habiller musicalement cette émission, j'ai choisi un vêtement, Madeleine, un vêtement intemporel, le bikini, tel que le chantait Brian Highland en 1960. Vous êtes sur France Inter avec Madeleine Fontaine. Vous écoutez un Itsy Bitsy Teeny Weeny Boomerang. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say,
2, 3, 4, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay.
2, 3, 4, stick around, we'll tell you more.
She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore.
2, 3, 4, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny.
Stick around, we'll tell you more.
Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue.
2, 3, 4, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle n'est pas venue en costume ce matin, figurez-vous. Ni froufrou, ni tissu, crinoline ou corset, ni même de tailleur, pantalon, ni bikini, effectivement. Mais ça serait dommage si elle n'avait pas ce visage absolument lumineux, hein, qui vous donne instantanément envie qu'elle vous prenne en main, en vous réinventant à coups de fil et d'aiguille au gré de mètres de tissu coupés, cousus, brodés. C'est une bonne fée, hein, celle du Cendrillon de Disney. Soudain, vous êtes Gus-Gus, la souris, avec son chemisier, vous savez, ce matin, qui représente en fait un immeuble avec des fenêtres, on se croirait dans la pub Égoïste. Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Madeleine Fontaine, créatrice de costumes, invitée de Boomerang ce matin pour son travail sur le film Nourieff, un film d'époque, on le disait. Et j'aimerais qu'on explore la façon que vous avez eu de travailler sur ce film. Quand vous avez pensé à Nourieff, quelles sont les premières images qui vous sont venues à l'esprit, vous? Comment ça commence, en fait?
Bien sûr, les images qu'on a toujours reçues, qui font déjà partie de la mémoire collective. Nourieff, la danse, pour moi, c'est quelque chose de très fort.
Vous l'aviez déjà vu?
Lui, malheureusement, j'ai jamais vu sur scène, mais je connaissais bien évidemment. Et la danse est quelque chose qui me touche depuis que je suis toute môme. C'est vraiment très fort.
Alors, sur les costumes de scène.
Sur les costumes de scène.
C'est ça que vous avez en tête au tout
non,
départ.
Non, c'est pas la première chose que je vois. C'est lui dansant déjà. Et puis après, c'est la Russie, parce que c'est aussi quelque chose de très fort. Je veux dire, la dernière fois que j'y étais allée, moi, c'était il y a 30 ans, donc. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, ça a changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. L'âme slave, c'est toujours ce qu'elle est.
Et c'est cette permanence que vous avez essayé de retracer
Oui, et puis aussi la différence de comment dire, la différence de texture de, selon les univers. Et là, c'était assez riche, parce qu'on avait justement la Russie en 38 quand il est né, en 43 quand il était enfant, en 50 et des poussières quand il rentrait au Kirov, au Vaganova plutôt, avant de rentrer au Kirov à Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque Leningrad. Tout ça, c'est des choses qui, à chaque fois, sont des univers très forts. Pour se retrouver à Paris en 61, vous, vraiment, c'est un bond dans le...
Et c'est par époque, en fait. C'est comme ça que vous concevez la façon dont il sera habillé, Nouriev.
L'époque et puis le contexte. C'est-à-dire qu'en Russie, à la même époque, c'est pas tout à fait la même chose. La petite équipe du ballet de Kirov qui arrive à Paris, pour moi, c'était important qu'on sente l'effort d'élégance mais russe.
Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un personnage qui, sauf lorsqu'il est sur scène, ne se distingue pas vraiment par les vêtements qu'il porte. Il y a une relative uniformité entre lui et les autres personnages, je trouve.
Sur scène ?
Non, dans le film.
Ah, dans le film ? Ouais. Oui, bah oui. Mais parce que dans la vie, il n'était pas, avant de devenir le Nouriev star qu'il est devenu en Occident, il n'était pas différent des autres, il n'avait pas des moyens supérieurs aux autres et il s'habillait comme il pouvait. Avec un souci d'esthétique toujours, mais il venait d'une famille très pauvre.
Ça dit quelque chose du personnage aussi, en fin de compte.
Il me semble que ça parle, oui. Enfin, de toute façon, ça parle toujours, l'apparence.
Créer des costumes, Madeleine Fontaine, c'est aussi travailler en bonne intelligence avec ceux qui créent les décors, mais aussi avec le directeur de la photographie. En quoi vos créations respectives sont-elles en lien les unes et les autres ?
Indispensable de travailler, bien sûr, avec l'image, parce que la manière dont on éclaire les choses, ça les change...
Vous voulez dire qu'il y a des couleurs que vous vous interdisez parce qu'elles ne passent pas à l'écran, par exemple ?
Non, maintenant, c'est des matières. En tout cas, avec le numérique, c'est encore plus des motifs qu'avant, parce que ça, très vite, ça moire, ça vibre et c'est pas...
Pas de petits carreaux
Ah non, ouais. Mais puis il y a beaucoup de choses qui moirent et qu'on n'imagine pas. Mmh. Donc on a beaucoup moins de possibilités maintenant qu'avec le 35. Après, il y a effectivement des couleurs, mais plus que ça, je crois que c'est la manière dont les matières sont perçues et vivantes, qui changent selon la manière dont on les éclaire, et c'est très important.
Parce qu'elles sont vivantes, les matières ?
Ah, pour moi, oui.
Elles ont un corps ?
Oui, elles ont un corps.
Elles dansent ?
Elles dansent. Ben, quand on les fait danser, elles dansent. Oui, quand on les fait chanter, elles chantent aussi, mais elles peuvent crier.
Comment ça, elles peuvent crier ?
Oui.
Ah, quand elles sont criardes ?
Oui, quand elles se rencontrent et que ça ne fait pas quelque chose de très agréable à l'œil, elles crient pour moi. Alors que quand elles chantent, c'est quand même très agréable.
Ça vous arrive de mettre en scène une scène de conflit par des couleurs criardes ou des couleurs qui ne se correspondent pas, justement ?
Ça, c'est déjà beaucoup plus délicat parce qu'il faut que ça soit perçu avec ce degré-là. Je veux dire, c'est pas sûr. Mais...
Quels sont les paramètres qui orientent le choix d'un tissu, justement, Madeleine
Alors,
Fontaine.
Première chose, c'est d'une matière, vous voulez dire,
oui,
pas d'une
matière,
couleur.
Pardon.
Mais non, mais c'est vrai, quand vous dites un tissu, pour moi, la couleur, ça va forcément avec le caractère aussi, et avec la carnation de la personne qui va porter le vêtement. Mais la matière, c'est très lié justement à l'image. Il y a des textiles qui mangent la lumière, il y en a d'autres qui la reflètent, il y en a qui la flattent. Enfin,
et il y en a avec lesquels vous aimez particulièrement travailler, vous qui signez votre création ?
Non, ça dépend vraiment des contextes. Je pense que la manière dont un lin va être rustique pour quand il le faut est aussi importante pour moi que la qualité d'un haillon ou la vibration d'une soie. C'est... L'important, c'est que ça soit au bon endroit.
La vibration d'une soie.
Écoute, Pierre. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. Tu comprends, ça ? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends ? Je vais mourir d'ennui.
Faut que tu te reposes. T'es encore fragile.
Oui, mais toi, tu l'es pas. Toi, t'es fort. Hein ? Il faut ouvrir notre propre maison de couture. Ouais, je veux vivre. Mais je veux vivre avec toi.
C'est vous, Madeleine Fontaine, qui avez choisi cet extrait du film Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper, film dont vous avez réalisé les costumes. Pourquoi cette scène en particulier ?
Parce qu'elle parle d'un créateur de mode. Et donc, pour moi, un créateur de mode, c'est quelqu'un pour qui l'objet créé est un but en soi.
Là, il dit que c'est carrément vital.
Oui, mais c'est sûr que ça l'est pour lui. C'est sûr que ça l'est. Mais pour moi, c'est pas l'objet créé qui est vital. C'est la manière dont le travail effectué rend les choses vivantes et crédibles. C'est pas l'objet en soi qui est un but.
Vous êtes en train de nous dire que vous êtes pas une artiste, mais un artisan, Madeleine Fontaine?
Je sais pas ce que je suis, mais en tout cas, très honnêtement, je pense que je ne mourrais pas de pas pouvoir créer. En même temps, c'est effectivement cette énergie créative, j'en ai besoin, c'est sûr. Mais encore une fois, pas pour faire mes robes.
À quelle difficulté est-ce que vous vous êtes heurté en travaillant sur ce film Yves Saint Laurent? Un film qui ne cesse d'interroger justement le vêtement et qui est censé mettre en scène des vêtements iconiques que vous avez dû pour certains reproduire.
Oui, c'est ça la difficulté quand on touche à une figure publique. Et en plus, là, à une figure publique qui était créateur de mode.
Et dont on connaît certaines robes.
Mais beaucoup, bien sûr. Ouais. Et puis dont on a utilisé aussi certaines robes. Enfin, ses collections devaient être mises en scène aussi. Donc il a fallu travailler avec la fondation Pierre Berger. Ça a commencé par être des barrières au départ. Et puis la confiance s'est installée et ça n'en a plus été. Mais ce n'était pas évident. C'était pour Pierre Berger, paix à son âme, toucher les vêtements de Yves, ce n'était pas possible. Les reproduire, ce n'était pas possible.
Pour autant, un vêtement de haute couture... Ça n'est pas la même chose qu'un costume de cinéma.
En même temps, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont formés à la haute couture et qui ont la main et le feeling de la haute couture. Donc, on a mis quelques pièces dans les collections 65 qui étaient trop pauvres. Parce qu'ils ont commencé à s'occuper de patrimoine chez Saint-Laurent vers 72, je crois. Donc, en fait, ce qui était antérieur, c'était très, très peu. Donc on a refait des pièces pour compléter sur la collection 65. Personne ne nous en a voulu, c'est passé tout seul. Sur 50, la robe de mariée avait complètement disparu. On l'a refaite à base d'une robe trouvée vintage et retravaillée. Je pense que Dior l'a gardée d'ailleurs. Bon, l'important, c'est d'arriver à le faire accepter, à ce que ça soit authentique.
C'est pour ça, c'est pour l'authentique que vous créez pour le cinéma, Madeleine Fontaine?
Je ne sais pas si c'est pour l'authentique. En tout cas, j'ai vraiment envie de servir la vision d'un réalisateur.
Merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je rappelle que Nourieff, le corbeau blanc de Ralph Fiennes, avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Persona, Sergueï Polonine, sort la semaine prochaine. C'est un très beau film. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se belle en saut dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Bovary, Clara Luciani sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Et ben je suis là, Augustin, et ce sera un bonheur de vous retrouver demain.
À demain.
Salut.
Salut.